Santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
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 C'est bon pour la santé.
Bonjour, comment ça va?
Bien, je le souhaite, Marianne Paquette, avec vous, avec grand plaisir. Vous écoutez Canal M et l'émission « C'est bon pour la santé ». Aujourd'hui, à l'émission « Comment parler aux jeunes enfants et aux adolescents de la maladie d'un proche, que ce soit un parent, un grand-parent, et qu'est-ce qu'un enfant comprend de la maladie. C'est pas toujours évident pour un adulte de penser que l'enfant conçoit les choses de façon différente. Notre chroniqueuse France Cardinal-Remette nous éclaire sur le sujet. Aussi, Ginette Archambault, elle directrice des programmes à la Croix-Rouge canadienne, nous parle d'ateliers d'art et de métiers pour les anciens combattants du côté de l'hôpital Sainte-Anne. Le comédien et auteur Hugo Auriot présente son deuxième livre qui s'intitule « Carnet d'un imposteur ». C'est un récit sur l'enfant en tant que personne autiste. Il est autiste Hugo Auriot, mais également sur son nouveau rôle de père. Comment ça s'articule être un papa qui est autiste? Qu'est-ce que ça change dans le rôle et dans l'approche? Il pourra nous parler de tout ça. Il sera avec nous en studio. Aussi, comment mieux comprendre l'anxiété chez les jeunes afin de mieux intervenir avec Jonathan Bluteau. Il est psycho-éducateur et également professeur du côté de l'Université du Québec à Montréal. Mais tout juste avant, on se tourne vers Martin Forgue pour la revue de presse de la semaine. Bonjour Martin.
Bonjour Marianne.
Merci d'être là avec nous en studio pour cette revue de presse. On débute avec une nouvelle qui vous a soufflé ce matin, Martin. Et il y avait de quoi parce qu'une percée majeure pour contrer 4 cancers. Et c'est une recherche qui nous vient de Montréal.
Qui nous vient de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie. C'est le docteur Claude Perrault qui dirige l'équipe. Et vous l'avez dit, Marianne, c'est une percée majeure. C'est, et je cite ici le docteur Perrault, c'est le challenge ultime, développer un vaccin contre le cancer. Et donc, récemment, il y a une de ses étudiantes qui fait partie de son équipe qui a déchiffré dans l'ADN la façon d'activer des anticorps pour déclencher une réponse immunitaire qui viserait les cellules cancéreuses. Et ça, on considère que c'est la première étape vers un vaccin qui serait thérapeutique, qui ne serait pas préventif, il faut le spécifier. Donc, un vaccin qui s'adresserait directement aux patients. Et j'essaie de vous l'expliquer rapidement. Donc, à partir de cette découverte-là, donc ce décryptage de l'ADN, on cherche à produire une façon de produire des cellules étrangères qui déclencheraient ensuite la réponse immunitaire et qui viendraient donc cibler les cellules cancéreuses. Et encore plus gros comme nouvelle, ce potentiel vaccin s'attaquerait aux cancers les plus meurtriers, donc les cancers du sein, des ovaires, des poumons et du côlon. Mmh. Et le docteur Perrault, même s'il reste prudent, croit que d'ici 5 à 10 ans, il pourrait y avoir un vaccin. Et sa recherche a attiré l'attention également de la revue Nature Communications, qui a publié un article sur sa recherche. Et un autre fait extrêmement intéressant dans cette recherche, c'est que son étudiante, Christelle Vincent, qui elle-même a été diagnostiquée d'un cancer des ganglions à 19 ans et qui est aujourd'hui en rémission. Et donc, elle a décidé par la suite de consacrer ses études sa vie à la recherche qui viendrait évidemment essayer de développer un remède pour la maladie qui l'a affligée.
Oui. Et ce que j'entends à travers cette nouvelle, Martin, c'est que c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, mais notamment pour les femmes, parce que le cancer et on l'apprenait la semaine dernière avec Kim Lavoie, qui touche et qui tue davantage les femmes, c'est le cancer du poumon et par la suite, cancer du sein. Évidemment, je ne peux m'empêcher d'y penser et on suivra ça de près. Ça va faire rayonner, bien sûr, ces chercheurs, cette équipe-là, mais Montréal.
Peut-être
aussi.
Un prix Nobel en devenir, on ne sait jamais.
Maintenant, Santé Canada approuve un nouveau traitement pour la maladie de Crohn.
Oui, un nouveau traitement Santé Canada qui vient tout juste de l'approuver. Donc, le Stelara, c'est un médicament qui se donne sous forme d'injection et, comme vous l'avez dit, s'adresse directement à la maladie de Crohn, qui est une inflammation, on le rappelle, une maladie inflammatoire qui affecte le système digestif, les intestins, et qui évidemment est un pour ceux et celles qui en sont atteints là, c'est vraiment
pénible. Prendre entrave à la qualité de vie, oui.
Oui, tout à fait. Donc c'est un médicament qui vient d'être approuvé. C'est le troisième agent biologique approuvé par Santé Canada pour la maladie de Crohn après le Remicad et l'Entyvio. On note un taux d'efficacité de 56%, donc extrêmement efficace. Et on a publié notamment les résultats dans le New England Journal of Medicine, donc des publications très sérieuses. Et c'est une excellente nouvelle donc pour les gens atteints de cette maladie.
Maintenant, un centre d'injection supervisé pourrait voir le jour à Québec d'ici début 2018.
Ça, c'est pas demain la veille, mais par contre, on est déjà très optimiste donc du côté du CIUS de la capitale nationale, puisque bon, on rappelle qu'il y a eu trois centres d'injection supervisés qui ont ouvert leurs portes à Montréal, et donc ça envoie un très bon signal selon les responsables du réseau de la santé de la région de Québec. Et on est déjà en train de préparer le terrain pour l'ouverture d'un premier centre d'injection supervisée à Québec. On a commencé des consultations auprès des utilisateurs de drogue par injection. On espère en rencontrer une trentaine. On en a déjà rencontré une vingtaine selon ce que nous apprend Le Soleil. On estime qu'il y a environ 900 utilisateurs de drogue injectable dans la ville de Québec seulement, selon le rapport de 2014. Et on espère donc, d'ici la fin 2017, pouvoir soumettre la demande, incluant aussi une demande d'exemption en vertu de la loi réglementant les drogues et autres substances, puisque évidemment on ne voudrait pas que les gens qui se pointent dans le centre soient incriminés. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que la loi C-37 qui a été votée par le gouvernement libéral, eh bien, elle réduit le nombre de conditions obligatoires pour les centres, qui part de 26 sous l'ancien gouvernement, et donc maintenant, ils doivent se conformer à 5 facteurs, c'est-à-dire le besoin réel, l'impact probable sur la criminalité, la tenue de consultations qui sont en cours et s'assurer que les ressources soient suffisantes. Donc, beaucoup moins compliqué qu'avant.
Dernière nouvelle de cette revue de presse, c'est votre dada, Martin Forgue.
Oui,
les transferts fédéraux, la suite. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce suivi de dossier?
Donc, oui, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc, ce dossier des transferts fédéraux, cette chicane entre le fédéral et les provinces, eh bien, une étude de l'Université d'Ottawa tombe à brûle-pourpoint. Elle estime que la contribution fédérale en santé ne permettra pas aux provinces de maintenir les services au cours des prochaines années. Je vous rappelle rapidement l'offre fédérale actuelle. On parle d'une augmentation des transferts d'environ 3,5% par année. Mais pour ce qui est de l'étude, elle s'est penchée sur le cas de l'Ontario, une étude de cas qu'elle estime conservatrice d'ailleurs. Elle estime que les dépenses en soins de santé augmenteront de 5,1% de 2016 à 2018 et par la suite, ça pourrait aller de 4,5 à 5%, donc de loin supérieur à l'offre. Et autre fait très important à noter, c'est que sur les provinces qui ont conclu des ententes ou non, eh bien dans celles qui sont toujours... qui tirent toujours à boulet rouge sur Ottawa, eh bien, il y a le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Manitoba qui, elles, comptent 90% de la population canadienne. C'est le gros poids.
Oui. Merci pour cette revue de presse. Martin, la semaine prochaine, en mon absence, vous dirigerez cette émission.
Oui, j'animerai.
Vous serez au micro. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances et merci pour ça, Martin. L'adolescence est une période de grands changements et de bouleversements hormonaux. Ça peut entraîner des périodes de stress et d'anxiété. Il y a une façon de mieux comprendre l'anxiété chez les adolescents pour mieux les accompagner, mieux intervenir. J'en parle à l'instant avec Jonathan Bluteau. Il est psychoéducateur, professeur régulier au département d'éducation et formation spécialisée du côté de l'Université du Québec à Montréal. Jonathan, bonjour.
Bonjour.
C'est une période marquée de changements. Est-ce que ce sont ces changements qui entraînent ou qui peuvent entraîner l'anxiété chez les adolescents?
À vrai dire, je répondrais à votre question par oui et non. Donc, ce qu'on sait, là, bon, vous l'avez dit, la période pubertaire et post-pubertaire, c'est une période d'adaptation qui est biopsychosociale. Mais, nécessairement, on sait là, que cette période va toucher certains jeunes, donc on dit à peu près un jeune sur cinq va être touché. Mais ensuite, il faut avoir quand même certaines prédispositions, dont des prédispositions reliées au tempérament, plusieurs facteurs de risque qui peuvent être. Donc tu sais, l'anxiété, il faut comprendre que c'est multifactoriel puis qu'il n'y a pas qu'une seule cause, mais que la phase pubertaire et post-pubertaire est un facteur de risque là, pour aggraver certains symptômes pour des enfants qui auraient un profil plutôt anxieux.
Oui. Jonathan, je me mets à la place des parents qui nous écoutent, des parents d'adolescents. Ça se manifeste comment, l'anxiété chez nos ados? Comment on peut repérer des signaux?
Écoutez, la question est pas simple à répondre parce que ça peut se manifester à la fois de manière intériorisée, c'est-à-dire certains jeunes vont manifester des comportements d'inhibition, donc plutôt une prédominance de peur, donc des peurs de toutes sortes, là, comme je pourrais dire, et ça se manifeste par de l'inhibition comportementale, donc par un retrait, un repli sur soi. Et chez d'autres jeunes, on peut voir des profils plutôt extériorisés, donc qui vont se manifester par de l'agitation, de l'impulsivité, de l'agressivité, des colères. Donc la question n'est pas simple, mais on a tendance, en tout cas quand les chercheurs et les livres là, sur lesquels on se base, ont tendance à catégoriser l'anxiété dans les problèmes intériorisés. Mais dans les faits, les manifestations peuvent être à la fois extériorisées comme intériorisées.
Oui. En tant que parents, enseignants, intervenants, on a envie de donner des outils à nos ados pour qu'ils arrivent à mieux cheminer malgré l'anxiété, malgré le stress. Et vous avez mis en place, il y a de ça maintenant plusieurs mois, Jonathan Bluteau, un programme d'intervention, qui est assez original, qui s'appelle In Vivo, qui est destiné à ces jeunes-là qui vivent avec l'anxiété, de la dépression, de l'agressivité aussi. En quoi consiste le programme In Vivo?
Oui, c'est un programme qui est innovant. C'est un programme qu'on a développé il y a 5 ans en collaboration avec les centres jeunesse de la Naudière. Bon, aujourd'hui, il s'implante à plusieurs endroits, là, au Québec et en France. Et puis, l'aspect innovateur de ce programme, c'est que, la majorité des programmes sur le marché, ce sont des programmes de type, psychoéducatif, mais dans lequel on transmet de l'information à des jeunes, on apprend des techniques et ainsi de suite, mais il y a très peu de mise en pratique. Bon, la particularité du programme In Vivo, c'est que à l'intérieur du programme, il y a une portion entraînement.
Oui.
Et on fait ce qu'on appelle de l'entraînement à l'inoculation au stress. C'est-à-dire qu'on soumet des jeunes à des défis stressants, des défis adaptatifs. Dans nos cas, on utilise des modules d'entraînement comme, par exemple, un trampoline, un mur d'escalade, un labyrinthe de type là, cage de bois. On peut utiliser une piscine, donc une piscine avec des hauteurs de tremplin. Donc, on utilise des défis adaptatifs là, par le biais. Je fais attention, c'est pas tant des activités sportives, mais on utilise plus ce type de module où est-ce qu'il y a une prise de risque pour créer des situations stressantes. Puis on veut voir apparaître, dans le fond, chez l'adolescent, ses réactions lorsqu'il est soumis à des situations stressantes.
In vivo, Jonathan, est un peu à l'image d'un vaccin, c'est-à-dire qu'on donne le signal de stress pour que l'organisme du jeune reconnaisse le stress et arrive à le contrer.
C'est l'image, en tout cas, qui est utilisée. Entraînement par inoculation au stress, là, c'est une traduction. Mais oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on soumet un jeune à des stresseurs. On veut qu'il tente de s'auto-observer pour développer les stratégies, dans le fond, nécessaires et utiles lorsqu'il sera soumis à d'autres situations stressantes. Fait que, dans les faits, c'est comme l'image du vaccin, là, c'est-à-dire qu'on apprend à reconnaître le problème et puis on développe des stratégies pour le contrer.
Oui.
Donc, c'est plutôt cette image qu'on peut retenir.
Il y a le mur d'escalade, la piscine, le trampoline, Jonathan, mais il y a aussi tout un volet plus, je dirais, pratique, des techniques de gestion du stress, des stratégies, du soutien social également pour les jeunes qui peuvent être une bonne trousse, un bon accompagnement pour eux.
Oui, bien dans les faits, le programme, c'est l'entraînement fait partie de l'intervention, mais le programme consiste en 10 ateliers avec des contenus qui sont à la fois pédagogiques, à la fois une forme d'enseignement explicite, là où est-ce qu'on joue à des jeux, où est-ce que les animateurs font des situations fictives, on discute des situations. C'est une activité également qui se fait en groupe restreint, donc mm-hmm. c'est deux intervenants pour 4 jeunes, donc c'est un autre type de modalité qu'on voit moins souvent. Donc, en somme, c'est à la fois de l'entraînement, mais à la fois des activités dites crayon-papier.
Oui. Jonathan, est-ce que vous avez pu voir les retombées chez les jeunes qui ont pu bénéficier du programme In Vivo?
Présentement, c'est un programme qui est en processus de validation. On n'a pas encore de données d'effet valides qui nous confirment. Là, tu sais, je peux pas affirmer scientifiquement que le programme est efficace. Donc ça, je peux pas aller là. Ce qu'on peut dire cependant, c'est que ce type d'intervention, ben on sait qu'on est capable de l'implanter dans différents milieux. On sait que l'adhésion des jeunes et des partenaires, donc les parents, les intervenants, les milieux qui l'implantent, ben l'adhésion est très forte. Donc ça, pour nous, puis on connaît les conditions dans lesquelles on peut l'implanter.
Oui,
fait que
oui.
Ça, c'est déjà très bon. C'est-à-dire, c'est comme si je vous disais de savoir que l'adhésion est forte et est à la fois une garantie sur des effets, même si on ne peut pas nécessairement faire ce lien direct. Mais c'est comme si je vous dis, quand vous prenez un antibiotique, votre médecin vous dit, prenez-le pendant 10 jours, même si vos symptômes sont encore présents, disparaissent. On dit prends le traitement au complet, ça c'est l'adhésion au traitement. Bien, dans notre cas, l'adhésion, elle est très forte. Donc, oui. Les jeunes ont un intérêt à venir, ils participent. Donc, ça, pour nous, c'est majeur. Puis, on voit pas une adhésion nécessairement aussi forte dans d'autres programmes. Mm. Donc, voilà. Mais on peut pas encore confirmer là, la nature des effets, puis on peut pas le qualifier non plus de programme probant.
Les intervenants et les enseignants peuvent se procurer la trousse In Vivo. En tout cas, c'était le cas au printemps dernier. Est-ce encore possible, Jonathan?
Oui. Le programme, présentement, il est disponible à la coop de l'UQAM, donc à la librairie de la coop de l'UQAM. Donc, c'est l'endroit où est-ce qu'on peut le commander. Ça se fait via Internet ou sur place. Et puis, il y a également une formation. Donc, les gens peuvent se procurer le programme, donc les professionnels, s'ils veulent simplement avoir un outil supplémentaire. Mais si un milieu souhaite vraiment l'implanter selon les conditions dans lesquelles on l'a développé, bien là, il y a une formation qui vient avec, qui est une formation de 2 jours, qui est une formation théorique et une formation pratique. Et puis, cette formation se donne 3 fois par année là, dans la région montréalaise.
Et In Vivo a également sa page Facebook. On invite bien sûr les auditeurs à aller la visiter. Jonathan Buteau, vous êtes psychoéducateur, professeur régulier au département d'éducation et formation spécialisée de l'UQAM. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
En France, 650 000 personnes sont touchées par l'autisme. Également, 80 % des enfants français ne sont pas scolarisés. Et finalement, 77,4 % des autistes n'ont pas eu accès à un diagnostic précoce. On apprend tout ça dans le deuxième livre, le plus récent livre d'Hugo Auriot, Carnet d'un imposteur. Il est avec moi en studio. Merci d'être là, Hugo.
Bonjour.
Dans ce livre-là, vous parlez bien sûr de votre vie avec l'autisme. Vous en parlez peut-être davantage dans votre premier livre, L'Empereur, c'est moi, oui. Est-ce que c'est une façon, et bien sûr, d'entrée de jeu, je pense que c'est important de dire que d'un point de vue québécois, ça a quelque chose d'assez préoccupant, ces statistiques-là, d'inquiétant. Est-ce que cette prise de parole dans le livre est une façon de dénoncer ou du moins de nommer la situation?
Exactement. Je suis convaincu que d'ici une centaine d'années ou 200 ans, ce qui se passe par rapport à la population autiste en France, on la qualifiera cela de génocide. En effet, les autistes en France, ce n'est pas trop de dire qu'ils sont déportés. On les emmène en Belgique dans ce qu'on appelle des usines à français aux frontières de notre pays et on s'évertue à surinstitutionnaliser cette question-là, c'est-à-dire que toute différence aujourd'hui est enfermée derrière des murs et on accompagne pas la différence. On préfère parler de prise en charge du handicap, alors que l'autisme est une part de la neurodiversité humaine, c'est une manière différente de fonctionner et qui peut tout à fait être en adéquation avec la société telle qu'elle est. Mais on refuse cette question-là en France. Parler de cela en France, parler de neurodiversité dans l'autisme en France est encore aujourd'hui politiquement incorrect, mais je le fais.
Oui. Vous pourriez déménager ici, Hugo Ariou. Le point de vue serait différent.
Personnellement, pour moi, tout va bien, si vous voulez. C'est plutôt pour mes tas de camarades autistes pour qui il y a beaucoup de problèmes. Pour moi, en France, je suis arrivé à me débrouiller, mais je suis évidemment une exception. Mais ceci dit, mon cas est loin d'être exceptionnel. C'est-à-dire que je connais quelques autistes qui ont la chance d'avoir une vie, si vous voulez, plutôt autonome, même en France. Mais ce sont des autistes secrets. Ce sont des autistes qui n'ont jamais été diagnostiqués. Beaucoup se font diagnostiquer vers 50 ans, 40 ans. En France, il faut en moyenne 3 ans d'attente pour un diagnostic. Et très peu de psychiatres sont compétents en France. Imaginez-vous que les formations psychiatriques et psychologiques en France, vous étudiez l'autisme peut-être 2 heures dans vos formations. Et si vous y êtes, on va peut-être vous vanter les bienfaits des mérites de torture qu'on est encore les seuls à pratiquer en France, comme le packing, par exemple, qui consiste à envelopper un enfant autiste dans des linges humides et froids à 5 degrés, où on va encore dire que ça fait du bien. En France, c'est 3 milliards d'euros par an qui sont consacrés à l'enfermement de la population autistique, et c'est de l'argent public.
Hugo, vous parlez de votre vie avec l'autisme, et surtout aussi de votre nouveau rôle de père, et ça, on y reviendra. Comment ça se manifestait dans votre enfance, l'autisme? On apprend qu'à 6 ans, vous ne parliez pas encore. Est-ce qu'il y avait d'autres signaux qui pouvaient démontrer ce trouble du spectre
en effet,
de l'autisme?
Pour la communication, la communication m'effrayait au plus haut point. Je n'étais pas prêt à communiquer. Je me suis ouvert au langage extrêmement tard, à l'âge de 6 ans, et je suis encore resté très taciturne jusqu'à l'âge de 12 ans. J'évitais aussi le regard des personnes. Les regards, c'est une telle avalanche d'informations sur l'individu. C'est la fenêtre de l'âme. Et donc cette avalanche d'informations me troublait énormément. Donc j'évitais le regard de chacun et j'avais beaucoup de gestes répétitifs dans lesquels je me réfugiais. J'étais capable de tourner les roues des petites voitures pendant des journées entières. Et il a fallu à un moment donné... quand je me suis senti plutôt prêt à rentrer dans la communication, dans une société basée sur le verbe, l'image, enfin toutes ces choses-là, tous ces codes qui ne sont pas évidents pour la population autistique, pour la spécificité autistique, quand j'ai commencé à le faire, je me suis muré dans une prison qui était le conformisme, le mur de la contrainte de normalité. Et ça, c'est ce que je raconte dans Carnet d'un imposteur, où là, à force d'essayer de me faire passer pour quelqu'un, entre guillemets, de ce qu'on qualifie de ce qui n'existe pas, mais de normal, au moment où je décide enfin de raconter mon histoire, de replonger dans ces parts d'ombre de moi-même, eh bien, je suis devenu un comédien tellement adroit pour me dissimuler qu'on refuse de me croire.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous ouvrir? On entend parler dans le carnet d'un imposteur de votre mère qui semble vous avoir accompagné dans cette différence-là.
J'ai eu beaucoup de chance avec ma mère, parce que c'est vrai que je n'ai bénéficié d'aucune méthode particulière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres de chapelle dans l'autisme où chacun essaye de trouver le ou la méthode miracle. Ça n'existe pas. Il faut rajouter du bon sens. Ma mère a eu le bon sens d'essayer de comprendre mon monde intérieur et quelque part d'être d'accord avec mon refus d'entrer dans une forme d'absurdité, mais en même temps elle a su me faire valoir l'importance, le fait qu'il était vital pour moi de quelque part quand même jouer le jeu, car sinon c'était l'enfermement en hôpital psychiatrique dès l'âge de 2 ans qui m'était destiné. Et elle s'est battue pour que je sois accepté à l'école ordinaire, ce qui a été difficile parce qu'à l'époque, et encore aujourd'hui c'est un peu encore balbutiant, il n'était pas du tout question de parler de réformer le système scolaire pour permettre d'ouvrir notre scolarité, pour créer une société inclusive, un système scolaire qui accepte toutes les différences et surtout avec des personnes formées pour accueillir ces différences afin de bâtir une société non plus basée sur la contrainte de normalité, mais sur la différence de chacun.
Vous êtes papa d'un petit garçon de presque 4 ans, Hugo.
Oui.
Et dans ce livre, vous parlez de ce nouveau rôle de père qui est confrontant. Est-ce qu'il l'est davantage parce que vous vivez avec l'autisme?
Alors, je ne pourrais pas vraiment dire. Disons que, en effet, tout le monde croit que je fais des livres sur l'autisme. En fait, je fais des livres sur la condition humaine en général. C'est-à-dire que le message de ce livre, quelque part, c'est qu'un autiste est un homme comme un autre, quelque part. Et la paternité est une révolution intérieure. C'est la plus grande révolution intérieure que j'ai connue. Quand ça arrive, cela bouleverse tous vos schémas établis, tous vos plans, toutes vos certitudes, et tout cela se retrouve balayé du jour au lendemain. Mais en même temps, tant mieux, parce que les certitudes sont faites pour être balayées.
Oui. D'entrer en contact avec votre fils, de trouver les gestes réconfortants, les gestes apaisants.
C'est
les
un monde étranger pour moi, ouais. Parce que mon fils, justement, lui est très heureux d'être un enfant. J'ai passé mon enfance à vouloir sortir de mon enfance, à vouloir la fouler aux pieds. Je voulais devenir un adulte, un grand tout de suite. Mon fils, il est heureux d'être un enfant. Il est taquin, il est joueur. Et donc, évidemment, je me dis comment être un bon père alors que moi, j'ai détesté être un enfant. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le laisse me guider dans ce monde de l'enfance que j'ai récusé et que j'ai fui. Et finalement, quelque part, je vis une enfance par procuration avec lui et il m'emmène dans ce monde fait de jeux, de naïveté, de malice qui m'était interdit
en raison
de
ma
spécificité. C'est un très beau cadeau. Il me fait des cadeaux tous les jours comme ça.
Ouais. J'ai envie de profiter de votre présence, Hugo Auriot, pour nous se permettre d'entrer dans la tête d'une personne qui vit avec l'autisme. Comment mieux comprendre? Évidemment, c'est un spectre, l'autisme. Ça se vit différemment chez chaque personne, mais comment on peut arriver à mieux entrer en contact, à mieux comprendre et à mieux accompagner cette différence?
Déjà, je pense qu'il faut, avant de vouloir remettre en question l'autisme, ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt remettre en question les standards de notre société. C'est-à-dire que l'autisme appelle à une remise en question du fonctionnement sociétal. Et le fonctionnement sociétal, bien souvent, est bâti sur ce qu'on appelle une forme de contrainte de normalité établie par une majorité silencieuse. Mais il faut penser différemment. Il faut... l'autisme... Il y a beaucoup de personnes autistes qui ont révolutionné le monde. Les grandes inventions ont été faites par des personnes qui sont fortement soupçonnées d'autisme. Aujourd'hui, j'entends des discours comme quoi on voudrait corriger l'autisme, comme quoi on voudrait corriger la diversité humaine. Et ça, c'est extrêmement grave. Car là, on peut rentrer dans une forme d'eugénisme de nivellement par le bas et donc ça c'est l'avènement de la médiocrité et ça c'est le danger de notre civilisation et nous devons faire très attention. L'autisme est peut-être aussi peut être pris comme une sorte de lanceur d'alerte par rapport à cela.
Et à un moment donné aussi il faut savoir reconnaître et accueillir parce que si on regarde les statistiques et c'est la même chose au Québec, de plus en plus de diagnostics surviennent, il y a de plus en plus de naissances où l'enfant, on découvre que l'enfant vit avec l'autisme. Donc, de trouver, les paramètres pour mieux vivre avec cette personne-là, se diriger vers de la recherche, vers des ressources, vers la scolarité aussi, également. Et je pense qu'un livre comme ça peut nous amener, je le souhaite aussi. Il est accueilli en terminant de quelle façon de votre côté de pays chez vous, Hugo Auriot?
L'accueil est bon, on a un très très bon accueil critique, le public est au rendez-vous et je suis actuellement déjà en train de préparer mon troisième livre.
On suivra ça de près. Hugo Auriot, auteur de ce livre « Carnet d'un imposteur » que vous pouvez trouver du côté des éditions de l'Homme. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. Deuxième partie de cette émission, c'est bon pour la santé. Toujours Marianne Paquette avec vous au micro. Tout à l'heure, France Cardinal Le Rémette nous parle de comment parler d'une maladie qui touche un proche, à un enfant, à un adolescent. Il nous amène aussi à se conscientiser, à se sensibiliser sur le fait que les enfants ne conçoivent pas les choses de la même manière que les adultes. Ils ont leur rythme, leur compréhension des choses aussi et aborder ces sujets très délicats sur la maladie d'une personne proche, également aussi éventuellement le décès, ça prend une façon, il y a une façon de dire les choses et elle pourra nous aider à se préparer, à annoncer ce genre de nouvelles à nos enfants et adolescents. Mais pour le moment, on se tourne vers Ginette Archambault. Elle est directrice des activités internationales et santé du côté de l'hôpital Sainte-Anne. Madame Archambault, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est là aujourd'hui pour parler de ces ateliers d'art et de métier auprès des anciens combattants, mais avant, j'ai envie qu'on mette la table, qu'on explique aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que l'hôpital Sainte-Anne. Elle a une mission, je pense, particulière, Ginette.
Oui. Écoutez, pour préciser, moi, je suis la directrice des programmes des activités internationales pour la Croix-Rouge canadienne. Donc, la Croix-Rouge travaille à l'hôpital Sainte-Anne depuis 1946, en fait, parce que l'hôpital Sainte-Anne, c'est un hôpital pour les vétérans. Donc, les soldats qui revenaient de la guerre étaient hospitalisés à l'hôpital Sainte-Anne. Depuis avril de l'année dernière, cet hôpital a été transféré, parce que c'était géré par les anciens combattants, et ça a été transféré au provincial. C'est maintenant un CHSLD.
OK.
Donc, on accueille depuis avril de l'année dernière des résidents, des civils qu'on appelle, qui côtoient aussi des anciens combattants.
Et ça fait partie, c'est une installation du CIUS de l'ouest de Montréal.
Absolument.
Bon, maintenant, on y reviendra peut-être à cette mission particulière qui tend à changer. Mais avant, Ginette Archambault, j'ai envie de vous entendre parler de ces ateliers d'art, de métier de la Croix-Rouge. Est-ce que ça s'adresse qu'aux anciens combattants?
Mais actuellement, on est financé, oui, par les anciens combattants. Donc, notre clientèle première, ce sont les anciens combattants de l'hôpital Sainte-Anne. Mais on ne refuse pas personne. S'il y a d'autres personnes, des civils qui veulent assister à nos ateliers, ils sont les bienvenus également. On a déjà commencé à en accueillir quelques-uns. Alors, ce sont des ateliers qui peuvent s'adresser à tous les résidents de l'hôpital.
Et en quoi consistent ces ateliers d'art et de métier?
OK. Principalement, c'est sûr, pour commencer, on regarde la capacité et les intérêts de chacun, mais on offre différentes activités. Ça peut être de la peinture, dessin là, sur canevas. Il y en a qui peinturent aussi des articles en bois, d'autres qui peuvent confectionner des bijoux. On a de la couture pour les dames, le tricot. Et on a aussi des métiers à tisser qui sont très populaires auprès des hommes parce que c'est plus manuel. Et aussi, on peut aussi, s'il y a des gens qui sont plus autonomes, plus habiles, offrir des ateliers de confection de vitraux, par exemple, ou des travaux sur cuir.
Oui. Quelles sont les caractéristiques de votre clientèle? Parce qu'on parle de personnes plus âgées, mais de vétérans également. Est-ce qu'il y a des choses qui peut-être les différencient d'une personne vieillissante, disons civile, comme vous les nommiez tout à l'heure?
Nous, à notre atelier, on voit pas la différence vraiment. C'est sûr que c'est une population vieillissante. Alors, la moyenne d'âge est de 92 ans. On a quelques centenaires. Et ce sont principalement des vétérans. Là, on parle plus de la Deuxième Guerre, mais de la guerre de Corée dans les années 50. Là. C'est certain que ces gens-là ont des suivis particuliers avec l'hôpital Sainte-Anne, que ce soit en psychiatrie ou en physiothérapie, s'ils ont eu des blessures de guerre. Mais au niveau de notre atelier, nous, on ne voit pas vraiment la différence quand qu'on travaille avec eux dans les ateliers.
Est-ce qu'il y a davantage d'hommes, Ginette Archambault?
Parmi la population des anciens combattants, oui.
Ouais,
il y a beaucoup plus d'hommes. Maintenant, avec les civils, ça tend à s'équilibrer.
Ouais. Depuis combien de temps donnez-vous ou offrez-vous ces ateliers-là au centre même de l'hôpital Sainte-Anne?
Bien, ça va faire, on a fêté notre 70 ans cette année. C'est depuis 1946. Donc, le gouvernement canadien avait demandé à la Croix-Rouge d'offrir justement des ateliers aux soldats qui revenaient de la guerre. Il y avait plusieurs centres à travers le Canada à l'époque. Aujourd'hui, il reste l'hôpital Sainte-Anne où on est présent et un hôpital à Regina, Saskatchewan.
OK. Et cette demande-là venait d'où? C'est-à-dire, pourquoi avoir eu comme objectif d'offrir ces ateliers-là? Bon, j'imagine parce qu'il y avait des bienfaits que l'on désirait, ou en fait, on désirait offrir une meilleure qualité de vie aux personnes vieillissantes et vétérans.
Oui, tout à fait. Alors, les ateliers, ce que ça permet de faire, bon, tout d'abord, c'est de briser l'ennui, hein, d'occuper que c'est les anciens combattants soient occupés à quelque chose. Ça leur donne aussi une occasion de socialiser avec les autres participants des ateliers. Et aussi ce que le personnel médical nous dit, c'est quand ils sortent de nos ateliers, ils sont beaucoup plus calmes. Donc ça réduit un stress. Ça instaure aussi une routine, hein? Donc les gens, il y en a des résidents qui viennent presque à tous les jours. Ça fait partie de leur routine quotidienne. Il y a aussi le fait aussi de, bon, pour les populations vieillissantes, surtout c'est d'être capable de travailler avec sur des objets, à créer des objets. Bon, c'est bon pour l'estime de soi, mais aussi ça aide à maintenir la dextérité manuelle, les habiletés cognitives, aussi la concentration. Mmh. Alors, il y a plusieurs bénéfices qui ont été reconnus, hein. Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus sur le fait de travailler sur des projets d'artisanat.
Oui. Vous le disiez tout à l'heure, ça fait 70 ans que ce programme-là existe. Toutefois, tout à l'heure, en début de discussion, vous avez quand même mentionné que la mission tend à changer. L'hôpital Sainte-Anne, qui est l'hôpital des anciens combattants, a changé un peu de mission, est devenu un CHSLD. Quels sont les nouveaux paramètres? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'anciens combattants que vous avez dû tranquillement modifier la mission de cet hôpital-là?
Oui, c'est tout à fait le cas. Comme les anciens combattants, c'est une population qui est vieillissante, donc il y a beaucoup moins d'entrées d'anciens combattants, donc ouais. elle continue à diminuer. Alors éventuellement, il y aura plus d'anciens combattants là qui vont être pris en charge par l'hôpital Sainte-Anne. Donc c'est pour cette raison que l'hôpital a été converti en CHSLD.
Ouais, et que les ateliers continueront à être offerts à travers le CHSLD.
Oui, on l'espère. On travaille beaucoup à ça parce que présentement, on est financé par les anciens combattants, mais il y a une volonté du CIUS de l'Ouest de l'île de pouvoir poursuivre ces ateliers-là pour les civils là, qui vont arriver dans l'hôpital là, dans les prochaines années.
Jeannette Archambault, un ancien combattant, mais qui serait plus jeune, parce qu'il y en a évidemment aussi, pourrait-il bénéficier de ces ateliers-là ou serait dirigé vers d'autres services?
Bien, ceux qui sont à l'hôpital présentement, ce sont des anciens combattants qui sont en fin de vie, hein, comme okay. un CHSLD. Mmh. Les plus jeunes qui sont admis à l'hôpital, c'est en clinique plus externe. Il y en a qui résident là pour 2-3 semaines. C'est principalement ceux qui suivent des traitements pour choc post-traumatique, par exemple. Mmh. Alors, ils restent à l'hôpital pour des périodes plus courtes. Oui, ils ont accès à nos ateliers, à d'autres services de l'hôpital. Ça fait partie de l'offre de services.
Okay.
Mais c'est pas les jeunes qui entrent. C'est comme un CHSLD, donc c'est pas des jeunes qui arrivent à l'hôpital.
D'accord. Et d'autres services de l'hôpital, d'autres services de la Croix-Rouge aussi, j'imagine.
Oui, absolument.
Jeannette Archambault, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes directrice du côté des programmes du côté de la Croix-Rouge canadienne, de nous avoir parlé de ces ateliers d'art et de métiers de la Croix-Rouge à l'hôpital Sainte-Anne.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Elle nous offre une chronique mensuelle et on est bien contente de l'entendre aujourd'hui. France Cardinal, Rémette, infirmière et auteure, bonjour.
Bonjour.
On parle aujourd'hui d'un sujet qui est délicat, mais qui peut être très outillant pour les familles qui nous écoutent, à savoir comment aborder le sujet de la maladie d'un proche avec un enfant, un adolescent. Et je pense que la première chose que l'on veut mettre de l'avant aujourd'hui, France, c'est que l'enfant ne conçoit pas les choses de la même manière qu'un adulte. Il a son rythme et sa compréhension des choses.
Oui, tout à fait, tout à fait. Même le caractère irréversible de la mort, il ne saisit pas encore, hein, plus il est jeune, bien sûr. Tu sais qu'en Amérique du Nord, c'est un sujet, je dois dire, qui me touche particulièrement. C'est vrai que c'est touchant de parler d'une maladie grave ou de la mort d'un parent. Et au Québec, j'ai fait des recherches et selon la Régie des rentes du Québec, il y a près de 17 000 enfants ou jeunes là, qui bénéficient de la rente de l'orphelin. Alors, on en a plusieurs au Québec et on dit que ça correspond à environ un enfant sur 40 qui va être touché à un moment ou un autre là, du décès d'un parent. Alors, effectivement, que signifie la maladie grave d'un proche pour l'enfant? Bien, ils composent au fur et à mesure de la progression de la maladie aussi, mm-hmm. les enfants, à leur propre rythme. Et puis, ils vont exprimer à leur façon ce qu'ils ressentent. Oui. Et des parents qui vont hésiter à leur en parler, ils veulent les préserver. Et ça, c'est peut-être pas la bonne route à suivre. Alors, c'est de ça qu'on aimerait parler aujourd'hui, oui. en fait, l'importance d'en parler.
Parce que les émotions vont se traduire chez l'enfant de plein de façons et parfois de façon un petit peu moins souhaitable.
Oui, les émotions, effectivement. D'ailleurs, c'est pas seulement au niveau affectif qu'il va avoir des réactions, mais ils peuvent avoir des réactions dans leur corps aussi, comme par exemple ressentir une grande fatigue.
Mm-hmm.
Oui, et au niveau des réactions possibles quand ils apprennent ou qu'ils comprennent qu'un parent est gravement malade et qu'il se passe quelque chose de sérieux, eh bien, il peut devenir hyperactif, on peut observer de la régression. L'enfant peut avoir de la difficulté à se concentrer.
Oui. Mais un peu à l'instar d'un adulte, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas, et cette nouvelle-là engendre une panoplie de réactions.
Tout à fait, oui. tout à fait. Et c'est important d'en parler précocement, parce mm-hmm. que l'enfant saisit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme avant. Il y a des perturbations dans le quotidien. Ce qui n'est pas dit verbalement est ressenti dans le non-verbal, hein, dans les réactions des personnes autour de lui. Alors, c'est pourquoi on suggère très fortement d'en parler, mais d'en parler, de se préparer oui. à aborder la question aussi.
Donc, maintenant, il y a différentes questions qu'on peut se poser en tant que parent, de proche d'un enfant, lorsque vient le temps d'annoncer cette nouvelle, c'est-à-dire la maladie grave d'un parent, d'un proche de l'enfant.
Tout à fait.
J'imagine, France, d'entrée de jeu, ça dépend quel âge l'enfant.
Oui, bien, même à ça, on suggère de réunir les enfants de tous les âges lorsqu'on aborde la question avec eux.
Mm-hmm.
Et chacun va saisir ce qu'il est en mesure de saisir à cette étape de son développement.
Mm-hmm.
Et qui devrait parler aux enfants? Bien évidemment, idéalement, les parents. Hein? Un des parents ou les parents ensemble serait davantage indiqué. Par contre, si un parent se sent vraiment n'est pas capable de faire de la peine à son enfant, il a peur d'aborder la question. Dans certains cas, il pourrait peut-être être utile de demander à une personne qui est très proche des enfants d'aborder la question avec eux.
Grand-papa, un oncle,
voilà.
un ami, oui.
Oui, exactement. Et ça peut être un parrain aussi, hein, qui ou une marraine qui est très près de l'enfant.
Mm-hmm.
Alors, ensuite, comment se préparer? Bien, je pense que c'est important que les parents, si ce sont eux qui abordent la question, mais qu'ils aient la même vision, hein, qu'ils s'en parlent avant, qu'ils aient la même vision avant de la situation, puis de définir un peu ce qui va être révélé pendant cette rencontre-là. Et puis aussi, de choisir un moment propice pour le faire. Hein. On ne fait pas ça devant la télévision qui est allumée ou si le téléphone sonne sans arrêt dans la maison, mais mm-hmm. ça va venir perturber là, le propos et le moment d'intimité qui est si précieux à ce moment-là. Puis aussi, on suggère de ne pas le faire avant la sieste ou avant le coucher, parce que là, les enfants vont être isolés tout de suite après, puis ce n'est pas une bonne chose.
Oui, même qu'on recommande de prévoir une activité ensemble après, ou du moins dans les jours qui suivent.
Oui, tout à fait, c'est l'idéal. de leur proposer une sortie au cinéma, au restaurant ou une activité plus physique, là,
oui.
s'ils préfèrent, les glisser dehors avec un des parents par la suite. Il y a une panoplie d'activités possibles. Il y a d'autres parents qui vont choisir aussi de dessiner ou de colorer en même temps qu'ils parlent avec eux. Hein. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais ça peut être rassurant à ce moment-là pour l'enfant d'avoir une petite activité à côté.
Oui. Maintenant, France, une question qui, je pense, vient à beaucoup de parents. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Est-ce que je dois tout dire la vérité? Bien sûr, notre enfant n'a pas toujours des connaissances d'oncologie ou de médecine. Mm-hmm. Comment on aborde les questions un petit peu plus délicates, là, directement liées à la maladie et à l'état de la personne?
Bien, c'est important d'utiliser des mots simples, faciles à comprendre, et puis de nommer la maladie. C'est un cancer, de nommer le mot cancer. Mm. Ça évite toute confusion. De partager aussi les sentiments ensemble qui se vivent au moment où on en parle. Puis aussi ce que cette annonce-là va provoquer, effectivement. Leur permettre aussi de poser des questions et de valider ce qu'ils ont compris de la situation. Il y a des gens qui vont même préparer un aide-mémoire pour s'aider là, durant cette rencontre-là. Et puis, il importe aussi d'accompagner l'enfant puis d'explorer avec lui ce qu'il perçoit, comprend et ce qu'il questionne intérieurement. Alors, explorer ce qu'ils comprennent, je le répète, de la situation. Et puis, poser des questions comme, par exemple, avez-vous des préoccupations particulières? Avez-vous des questions? Avez-vous tout compris?
Mm-hmm.
Est-ce que vous pouvez l'expliquer dans vos propres mots? Avez-vous besoin d'éclaircir certains aspects? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète par rapport au futur? Et puis les rassurer à ce niveau-là. Et puis même se projeter un peu dans le futur avec eux pour dire, écoute, s'il arrive quelque chose, il y a telle tante, il y a telle marraine, il y a ton père ou ta mère, telle personne qui va être avec toi, qui va te supporter. C'est très important, mm-hmm. tout ça. Mm. Et aussi les rassurer au niveau de l'amour qui existe
oui.
au sein de la famille. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, finalement. C'est de provoquer des rencontres ensemble. Et même pour les plus vieux, on dit que de faire des échanges puis de parler de son passé, pour un parent qui va partir, mm-hmm. de lui raconter des histoires ou des anecdotes du passé, des éléments qui sont importants à transmettre à leur adolescent, qu'il va garder ensuite. Et ce que la littérature nous dit, c'est que les souvenirs qu'ont les enfants de leurs parents après leur départ sont très important pour leur identité future, pour construire leur identité. Comme par exemple, un enfant qui perd son parent alors qu'il a 8 ans, bien à 12 ans, il peut revivre une certaine anxiété, puis aussi un certain besoin de définir son identité en lien avec ce qui était son parent. Il va se dire, est-ce que j'aurais été le même si ma mère ou mon père avait vécu? Qu'est-ce qui a changé? Puis qu'est-ce qui aurait pu m'apporter? Quel souvenir j'ai de lui? Quelle valeur je voudrais garder avec moi? Tous ces éléments-là sont fort importants.
Oui. Franck, je ne peux m'empêcher de vous demander quoi faire, quoi dire lorsque cette question très crue, très directe, mais on le sait, les enfants ont tendance à aller dans des réflexions et des questions très directes, mais cette question très difficile, est-ce que tu vas mourir? Évidemment, c'est délicat, mais on peut s'attendre à recevoir cette question-là.
Absolument. Puis je pense qu'il faut être franc avec l'enfant. Il faut éviter les mensonges. Il faut éviter ces pièges-là. Hein. Et puis, oui, il faut le dire, il faut le nommer, mais en rassurant toujours et en préparant l'enfant à cette éventualité-là.
Mm-hmm.
Parce que si on ne le fait pas, puis que le décès arrive, le choc va être encore plus grand.
Oui.
C'est ça qui se passe. Hein.
Oui.
On parle de parents, mais on peut parler aussi de grands-parents. Hein. Moi, j'ai côtoyé différentes personnes au cours de ma vie professionnelle. Puis j'ai vu des enfants réagir fortement aussi à la perte d'un grand-parent.
Bien sûr.
Et j'ai été quelquefois étonnée, mais c'est que la relation, hein, le deuil qui va suivre va être en lien avec le niveau de relation qu'on a avec la personne qui est partie. Puis il y a des enfants qui sont très, très près de leurs grands-parents. Alors, ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte et les préparer très bien, les supporter par la suite.
Oui. Vous parlez d'éviter le choc, d'être franc, d'être honnête. Et il y a aussi, je trouve important de le souligner, de dire les choses pour pas que l'enfant s'invente des scénarios parce que la nature de l'enfant même l'amènera à inventer le pire et peut-être même à vivre de la culpabilité.
Oui, puis il faut éviter ça à tout prix. Il faut le prévenir. On parle de culpabilité. Il y a des enfants qui vont dire « c'est de ma faute si papa est malade ou si maman est malade ». Mais non, non. Puis aussi d'autres, il faut le clarifier avec lui de façon très ferme. Hein. Et aussi, il y a des enfants qui vont avoir peur d'attraper cette même maladie-là. Ils pensent que c'est contagieux, la mort. Alors ça aussi, il faut démystifier tout ça.
Oui.
Et avant qu'on se quitte, je voudrais parler de ressources. J'aimerais bien que vous me mentionniez. Là. Je m'en gardais quelques minutes pour parler.
Allez-y,
de
on est à la fin.
Bon moment.
Oui, voilà.
Bon, alors écoute, il y a des guides. Il y a mon livre, là, Quand la vie se fragilise, où j'ai un chapitre qui traite de cet aspect-là. Mais il y a également des petits guides. L'enfant et l'adolescent face au cancer d'un parent, guide pour la famille et les intervenants de la Société canadienne du cancer qui est disponible sur le web. Il s'agit de dactylographier là, le titre et on y arrive ou d'aller directement au site de la société. Ensuite, comment parler avec l'enfant de la maladie grave et de la mort? Ça aussi, j'ai un site pour ça, www.afpssu.com. Et enfin, une ressource inestimable, Deuil Jeunesse, qui est un organisme qui se dédie au soutien des jeunes, des enfants. José Masson est la directrice générale. Je suis allée voir le site. C'est extraordinaire. Là, il y a on peut aller chercher plein d'informations à ce niveau-là. Le numéro de téléphone est le 1-418-624-3666. Et la ligne sans frais est le 1-855-889-3666.
Ce sont toutes de bonnes ressources. France Cardinal Remède, Deuil Jeunesse en est une et en plus située bon, à Québec, à Longueuil. Il y a d'autres succursales aussi. On pourra glisser sur notre site ces excellentes ressources. Je renomme le titre de votre livre, Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants. C'est chez Multimonde, France Cardinal Remède. Merci beaucoup pour cette chronique. C'était un sujet qui était délicat, mais c'était essentiel de l'aborder. Vous l'avez fait très, très bien.
Mais merci beaucoup.
Merci. Dernier moment de cette émission, c'est bon pour la santé. Mon moment coup de cœur. Ouh, là, cette semaine, c'est un petit peu spécial. J'avais envie de vous sensibiliser à une semaine très importante ici au Canalem, c'est-à-dire la semaine de la canne blanche qui a lieu du 5 au 11 février sous le thème, cette année, Travaillons ensemble pour une meilleure vision. Ça existe depuis 1947, cette semaine de la canne blanche. Ce qu'on veut, bien sûr, comme je le mentionnais, c'est sensibiliser la population, le grand public aux défis quotidiens que vivent les personnes avec un handicap visuel, que ce soit des personnes non-voyantes ou malvoyantes, il y a nuance ici, et tous les défis qu'ils ont à relever dans leur quotidien. Il y a des organismes qui se sont regroupés pour sensibiliser davantage les gens, mais aussi mettre en lumière, mettre en valeur les différents services, les regrouper ensemble aussi pour bon, les vulgariser au grand public ou aux personnes qui vivent avec ce handicap, à leur famille, à leurs proches. Donc, c'est un message commun, c'est aussi de pouvoir réunir tous les efforts afin de faire passer ce message-là. Et je pense que l'accent est mis cette année, mais depuis quelques années, ça le sera dans les années à venir, surtout l'apport de la technologie. Bien sûr, beaucoup d'innovations en ce sens, mais l'obstacle, c'est toujours l'accessibilité parce que, bien sûr, ça a apporté un monde vaste, riche, outillant Internet, les technologies, que ce soit les ordinateurs, mais en même temps, il faut garder en tête que ces outils qui sont formidables, qui peuvent être extrêmement aidants, doivent rester accessibles pour les personnes qui vivent avec un handicap visuel. Est-ce que c'est le manque de formation qui manque? Est-ce que c'est l'absence de normes reconnues? Ce sont des freins, il faut continuer à les nommer et cette semaine de la canne blanche permet ça. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est lié au transport, c'est un enjeu qui est majeur pour les personnes qui vivent avec un handicap. Si on pense aux stations de métro, aux stations aussi, les arrêts d'autobus aussi, est-ce que c'est annoncé suffisamment? Est-ce que les personnes peuvent circuler librement? Et c'est la sécurité aussi à laquelle il faut penser. Moi, je vous encourage à ouvrir les yeux pendant cette semaine-là. Il y a des gens qui vivent avec des handicaps visuels autour de nous, que ce soit dans la rue, vous allez en voir dans le métro, vous allez en voir à l'épicerie, à la bibliothèque. Comment ces personnes-là circulent? Comment on peut être des yeux pour eux également? Et comment on les aborde? Et je vous donne un truc, on propose un coude. C'est la façon d'intervenir avec une personne que l'on ne connaît pas, qui vit avec un handicap visuel et que l'on a envie d'aider parce qu'on a l'impression qu'elle en a besoin. On lui offre un coude, elle tient notre coude et comme ça, on peut la diriger de façon sécuritaire. Je vous invite donc à ouvrir les yeux et à continuer à penser à cette notion d'accessibilité universelle pour ces personnes. Et je pense que cette semaine-là sert à ça, entre autres choses, même s'il faut y penser à l'année. Je vous invite à aller voir la page Facebook de la semaine, Semaine québécoise de la canne blanche. Vous pourrez y voir justement ces organismes qui se sont regroupés pour unifier leurs efforts, pour continuer à sensibiliser en matière d'inclusion, de sécurité et aussi d'ouverture à la différence. On parle entre autres du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. On parle de INCA Québec, la Fondation des aveugles du Québec, l'Association sportive des aveugles du Québec, donc la Fondation En Vue aussi, qui sont réunis pour vous donner davantage d'informations. Voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de C'est bon pour la santé. Merci d'avoir été des nôtres encore cette semaine. La semaine prochaine, je vous rappelle, c'est Martin Forgue qui mène le bateau en mon absence. Je remercie l'équipe Jean-Sébastien Laliberté à sa console. C'est Martin Forgue à la recherche et à la revue de presse de cette émission et Christiane Campagna aux médias sociaux. Portez-vous bien. Bye bye. We'll be right back.